Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Généralement, mais pas exclusivement par la plateforme internet, dans le but de collaborer ensemble. Comme Adélaïde l'a dit tout à l'heure, il s'agit de produire de la valeur en commun grâce à une organisation plus horizontale du travail, c'est-à-dire une organisation des citoyens en réseau ou en communauté. On préfère l'usage et le partage de biens et de services au profit de l'accumulation et de la possession. Et ce sont les auteurs Roo Rogers et Rachel Botsman qui ont été les premiers à théoriser le principe d'économie collaborative dans leur livre « What's Mine is Yours, The Rise of Collaborative Consumption » en 2012. L'économie collaborative émerge à un moment où les hommes font face à une crise économique, sont défiants envers les acteurs institutionnels et sont de plus en plus sensibles à une éthique environnementale. Selon le rapport de Pascal Terrasse, l'économie collaborative s'inspire de trois courants de pensée qu'il est intéressant de présenter pour comprendre les fondements de cette économie originale. Elle est influencée tout d'abord par la mouvance du libre. Il s'agit d'un système ouvert où on passe de la propriété, qui implique la protection des droits de la propriété et des droits d'auteur, à un accès libre, universel et gratuit des ressources matérielles, des compétences et des connaissances par les utilisateurs de ce système. Le système, qui était un simple logiciel immatériel au départ, s'élargit maintenant aux infrastructures de production traditionnelles. Les hackerspaces ou les Fab Labs sont un parfait exemple de ce phénomène. Catalyseurs d'innovation, ce sont des lieux ouverts où des gens passionnés se rencontrent et collaborent pour créer grâce aux outils de production et de fabrication numérique. Ça peut aller des imprimantes 3D aux lasers mis à disposition. Et on dit qu'il y a alors fusion entre la production et la consommation. L'économie collaborative s'inspire également de l'économie de la fonctionnalité. Le but de ce modèle est d'utiliser un bien ou un service le plus longtemps possible et avec le moins de ressources possibles déjà existantes. Il ne s'agit plus de vendre un bien pour le posséder, mais de vendre l'usage d'un bien pour en tirer le maximum de profit, tout en générant des externalités positives pour l'environnement. Au lieu d'acheter une voiture, on achète de la mobilité. Au lieu de prendre un vélo, JC Déco et la mairie de Paris louent des Vélib. Un dernier exemple pour comprendre peut-être, on préfère acheter un service de nettoyage régulier plutôt qu'un lave-linge. Enfin, l'économie collaborative s'appuie sur l'économie du don. Le terme d'économie du don frôle l'oxymore puisqu'il s'agit là d'un échange repensé sans l'attente d'un retour, du moins immédiat, et à juste valeur de l'objet donné. Si je vous donne ce stylo, je n'attends ni de pièce qui est la valeur de l'objet échangé, ni le troc d'un autre stylo de valeur similaire. Les biens et les services n'ont donc, vous l'avez compris, pas de valeur d'échange, et leurs échanges reposent sur une transaction de confiance. Je donne sans m'assurer que j'aurai un retour, le retour étant envisagé comme un geste humain et finalement naturel. L'économie du don prône également le travail en tant que don, la reconnaissance des talents et le mérite des pairs. Et concrètement, l'économie collaborative revêt quatre formes d'application. La consommation collaborative, avec l'exemple de Blablacar que j'énonçais tout à l'heure, où les échanges de la consommation s'organisent en réseau d'individus connectés et non par des institutions centralisées. Elle regroupe le secteur du logement avec les locations de particulier à particulier, la colocation, les habitats partagés, le secteur de l'énergie avec les achats groupés, la mobilité avec le covoiturage et l'alimentation et l'agriculture, avec par exemple La Ruche qui dit oui, une plateforme qui met en contact directement les producteurs locaux et les consommateurs à travers les espaces physiques que sont les ruches. Et l'économie collaborative prend également la forme de production contributive, avec par exemple la réparation et la fabrication d'objets dans les Fab Labs, pour reprendre l'exemple de Romain qui est avec nous ce soir. Et elle s'inscrit également dans le cadre du financement de projets, avec les plateformes de crowdfunding par exemple, ou encore dans le cadre de la finance solidaire avec KissKissBankBank par exemple. Alors toujours d'après Pascal Terrasse, parce qu'elle répond aux aspirations des consommateurs, l'économie collaborative devrait se développer au bénéfice de l'économie dans son ensemble. En effet, l'extrapolation d'une enquête américaine sur la consommation collaborative a démontré que le marché mondial de cette économie atteindra 335 millions de dollars d'ici à 2025, contre 15 millions seulement en 2014. Et les synergies entre économie collaborative et économie classique vont progresser, et l'appui de l'économie collaborative sur plusieurs secteurs transverses comme l'assurance, le financement, les télécommunications, le marketing et la maintenance vont augmenter ses effets sur le reste de l'économie. Enfin, La création de partenariats entre les entreprises dites traditionnelles et les plateformes peut devenir un relais de croissance. Par exemple, en 2015, le partenariat financier entre Leroy Merlin et Frisbees, qui est un site de services entre particuliers, a permis la promotion de ce site auprès des clients de Leroy Merlin, qui peuvent bénéficier d'une aide pour des travaux d'installation ou de rénovation suite à l'achat d'un produit Leroy Merlin. Si le but de l'économie collaborative, le but premier, la collaboration humaine, n'est pas strictement rattrapée par l'argent, elle a de beaux jours devant elle et peut-être une opportunité à saisir pour l'économie. Ainsi, pour reprendre la citation d'Anne-Sophie Novel et de Stéphane Rio, auteur de « Vivre la co-révolution en guise de conclusion », je les cite « Dans une société collaborative, la créativité et l'innovation sont déculpées, elles s'enrichissent de la diversité et permettent en même temps à chacun de garder son individualité et de rechercher son épanouissement. »
Eh bien, merci Marion pour cette chronique qui nous permet de comprendre un peu mieux le sujet dont on parle ce soir, à savoir l'économie collaborative. Et après ces explications, on va tout de suite faire une courte pause musicale. Et ce n'est non moins avec... c'est avec le non moins connu groupe Justice, avec leur titre DVNO. Qui ne fonctionne pas. Alors, deux petites minutes. Ah oui. Non, c'est bon, en fait, je m'étais trompée de... pour la technique. Donc, on commence tout de suite avec le titre divinal.
Ugly girls and boys, I put you on my list to make you clap to just it's a man, I just an ego trip, but only when you win, and soon you say that's good. DVNO, four capital letters, printed in gold, cause details make the girl sweat even more, while they shaking their belt, no need to ask my name, to I just came here to bounce. Ladies out wax, they all know I'm coming. I'm losing my patience. I just came here to bounce. Baby,
et c'était Divine and O de Justice. Donc on a vu avec Marion la signification de l'économie collaborative. Encore merci Marion pour cette chronique.
De rien.
Et on a vu aussi donc, plusieurs origines de ce mouvement. On pourrait même dire que cette mutation économique vient de loin. Donc en me renseignant sur ce sujet, hein, vu quand même que c'est mon boulot, j'ai appris que cette économie ne date pas d'hier. Bien au contraire, on pourrait même faire remonter ses origines il y a moins de 100 avant Jésus-Christ, donc au paléolithique, entre le troc entre deux personnes par exemple, genre groom fait deux bras, gros bras s'échanger des peaux de mammouth parce qu'ils en avaient besoin, quoi. Mais bon, plus sérieusement, pour des chiffres et des faits plus précis, on sait aussi que la première fois que le principe est évoqué, c'est par deux sociologues américains, Mark Ulfelson et Joe L. Spice, qui étudiaient, je cite, les mouvements dans lesquels une ou plusieurs personnes consomment des biens et ou des services économiques dans un processus qui consiste à se livrer à des activités communes. Bon, pour finir avec ce léger historique, en 1990, on assiste en France à l'émergence des systèmes d'échange locaux, le SEL, qui sont des réseaux physiques d'échange et de vente de biens et de services entre particuliers dans une zone géographique donnée. C'est à ce moment-là que l'on commence à remarquer ce nouveau modèle de consommation. Et en 1995, c'est la création d'eBay. Alors je vous parle d'eBay parce que la consommation collaborative avait donc pour la première fois une plateforme d'échange entre particuliers, mais cette fois-ci à grande échelle, puisqu'elle passait par Internet. Donc, et passe toujours d'ailleurs, puisqu'eBay est toujours en marche. Tout le monde est libre de vendre, d'acheter, de s'échanger ses biens et services sans passer par l'intermédiaire d'un vendeur et surtout sans passer par l'intermédiaire taxe, ce qui était très intéressant à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Donc voilà pour un petit historique de ce phénomène. Donc évidemment, il est non exhaustif et ce sujet mérite qu'on s'intéresse encore plus à lui. Donc c'est pourquoi nous avons d'ailleurs des invités en seconde partie d'émission qui vont pouvoir nous en parler. Nous recevons ce soir le professeur d'économie et de droit Alain Clément, qui est à l'université des Deux Lions. Pour faire simple, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est l'économie sociale et solidaire et surtout en quoi elle consiste ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas effectivement l'économie collaborative dont vous avez tout à l'heure parlé, mais effectivement, il y a des liens entre les deux. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui, là aussi, est une pratique très ancienne, puisque dès le 19e siècle, on peut parler d'économie sociale et solidaire. Et je dirais qu'il y a des caractéristiques communes dans le sens où le contenu de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire est assez large, un petit peu comme tout à l'heure nous l'avons perçu en parlant d'économie collaborative. De façon plus, je dirais, formelle, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie des associations, des mutuelles et des coopératives. Mais je dirais que dans cette définition, effectivement, on associe plein de choses. Les coopératives bancaires, par exemple, le microcrédit, ce sont des pratiques qui sont très différentes. Vous parliez tout à l'heure des systèmes d'échange locaux. C'est une pratique d'économie solidaire également, mais qui n'a rien à voir avec des mutuelles de santé, par exemple, qui sont aussi partie prenante de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est assez difficile de définir, je dirais, d'une façon homogène de ces pratiques. Et je pense que c'est au moins une caractéristique commune entre l'économie solidaire et l'économie collaborative. Alors je crois que l'économie solidaire, par contre, se différencie de l'économie collaborative dans le sens où il y a un certain nombre de principes intangibles. Mmh. Par exemple, parmi ces principes intangibles, il y a le principe de la démocratie. Ce sont des structures qui fonctionnent de manière très démocratique. Les usagers font partie, je dirais, de la structure, décident. Et ce ne sont pas il n'y a pas un directeur salarié qui décidera des décisions, mais ce sont, par exemple, les assurés qui décident eux-mêmes des décisions. Dans les coopératives, ce sont les membres de la coopérative qui décident, qui prennent des décisions. Dans les associations, ce sont les associés qui décident. Donc il y a une dimension démocratique qui est probablement aussi visible dans l'économie collaborative, mais pas forcément. La deuxième caractéristique, je pense, qui est très différente entre l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire, c'est la volonté de ne pas rechercher coûte que coûte du profit. Ça ne veut pas dire que ces structures ne gagnent pas de l'argent, mais l'objectif premier, ce n'est pas la recherche du profit. Alors là aussi, effectivement, entre un microcrédit, une structure de microcrédit et une banque mutuelle, effectivement, il y a une différence considérable, puisque les banques mutuelles, les banques coopératives font des profits. Prenez le cas du Crédit Agricole, par exemple, ou de la Banque Populaire, ou la Caisse d'Épargne. Ce sont des banques qui, effectivement, gagnent de l'argent, même si l'objectif premier n'est pas celui de faire du profit. Et donc, dans l'économie collaborative, je crois qu'il y a un petit peu ça aussi. Il y a effectivement des structures dans lesquelles l'objectif, ce n'est pas la recherche du profit. Vous avez parlé d'économie du don tout à l'heure. Mais il y a des structures dans lesquelles la recherche du profit est évidente. Vous prenez Blablacar, par exemple, ou Airbnb. L'objectif, clairement, ce n'est pas simplement prendre des personnes en voiture ou prêter son appartement. C'est aussi essayer de rentabiliser à la fois son investissement matériel ou son investissement foncier.
Alors est-ce que justement par rapport à cette idée de profit, vous pensez que des sociétés comme Blablacar peuvent utiliser le terme économie collaborative pour finalement redorer leur image et faire de la publicité ?
Alors, Blablacar, je ne connais pas trop, évidemment, comme je connais comme tout le monde. Je dirais que dans Blablacar, il y a effectivement des pratiques très différentes. Il y a des gens qui se spécialisent, qui profitent, je dirais, de Blablacar peut-être pour faire du taxi, sans indiquer qu'ils pratiquent cette activité. Il y a donc des pratiques plus, je dirais, généreuses, où les gens, effectivement, même par l'intermédiaire de Blablacar, utilisent des services. Il y a un petit peu de tout, en fait. Hein. C'est difficile de répondre d'une façon homogène sur ces pratiques-là, mais je dirais que... Alors, Blablacar, effectivement... ne réexisterait pas sans Internet, ça c'est évident. Je crois qu'Internet a permis des pratiques qui n'existaient pas auparavant. Hein. Et je crois que pour Airbnb comme pour Blablacar, c'est ça en fait l'intérêt. Mais en fin de compte, on n'a pas inventé des choses nouvelles dans cela. Parce que finalement, des gens qui louent leur maison ou qui prennent des gens, ce ne sont pas des pratiques nouvelles. Hein. Sauf que ça a pris une dimension beaucoup plus importante du fait d'Internet. Je crois que c'est ça qui est le plus important.
D'accord. Ici. Et moi, j'avais une question, alors je la pose à vous deux, à Romain et à M. Clément. Est-ce que vous pensez que l'économie collaborative et solidaire a aussi eu un essor, puisqu'on en parle beaucoup plus maintenant, c'est beaucoup plus médiatisé, avec aussi l'essor qu'on a connu, qui est celui de la crise, notamment celle de 2008. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux, le fait d'aider les gens entre eux et pas simplement s'aider pour soi-même ?
Je pense qu'en fait, déjà dans la question, il y a un parti pris qui est de dire économie collaborative et solidaire. Je pense que l'économie collaborative n'est pas par nature solidaire, elle regroupe des pratiques extrêmement variées. Blablacar s'en est un bon exemple. Et que l'idéal présenté au début d'un système horizontal, démocratique, etc., on voit bien que maintenant que l'économie collaborative est rentrée dans les mœurs, est rentrée dans le discours, faut bien distinguer qu'il y a des dérives et qu'il y en a certaines qui ne vont pas par là. Et qu'au contraire, quand on parlait à un moment donné d'horizontalité, de désintermédiation, on se rend compte que finalement, ça a été à l'inverse. Ça a été vers des structures qui recréent des intermédiaires, sauf qu'au lieu d'en avoir plusieurs, il y en a un, et que cet intermédiaire se retrouve en situation de monopole. Et que du coup, tous les acteurs, où l'idée c'était de dire ça va augmenter le pouvoir d'agir des utilisateurs qui vont utiliser Blablacar, qui vont utiliser des plateformes comme ça, ça devient l'inverse. C'est que finalement, chacun l'utilise à titre individuel sans avoir le sentiment de faire partie d'une communauté d'usagers, d'une communauté d'utilisateurs, comme ça pourrait être le cas dans des coopératives, et qui du coup vont être complètement dispersés. Et ça, on le retrouve même sur le niveau des conditions de travail. On est un peu dans un truc, tous travailleurs indépendants. On va tous devenir, grâce à la technologie, à Internet, des travailleurs indépendants qui vont mettre en lien l'offre et la demande. Et finalement, cette dispersion, ça fait que les puissances syndicales, etc., ne se créent pas dans ces modèles-là. Mm-hmm. Et ça fait que tout le monde est dispersé et que finalement, ça recrée de la disparité, de la dispersion et de la précarité, finalement. et qu'on n'interroge pas le fond du problème, qui est comment Internet, comment des nouveaux modes de production, comment l'automatisation, la robotisation, ça vient réinterroger tout ce qui est, tout ce qui sont les grandes mutations à l'œuvre en termes d'emploi, d'activité, de rapport à l'activité, à l'emploi des individus, et finalement qui sont les gros débats de fond de comment finalement on repense le contrat social, et que finalement ça pose pas ces questions-là, ça les résout par des réponses d'ordre technique, technologique et des espèces d'idéaux lancés en l'air comme ça, mais qui ne répondent pas à ces questions-là.
D'accord, donc on a l'impression, en fait, quand tu nous dis ça, que le fait que ce soit autant médiatisé, on passe vraiment à côté d'autres choses et on ne se pose pas les bonnes questions quand on parle d'économie collaborative, quoi.
Oui.
D'accord.
Oui, alors, vous parliez de la question de la crise.
Oui.
Alors, effectivement, je dirais que si je prends le cas de l'économie sociale et solidaire, on a beaucoup développé cette forme de pratiques économiques à partir de la crise de 1974.
D'accord.
Effectivement, ce que l'on peut dire sur certaines pratiques, tout du moins, je prends par exemple le cas d'Essel dont vous parliez tout à l'heure, il y a effectivement une demande sociale qui n'est pas toujours solvable. Et dans le cadre des systèmes d'échange locaux, effectivement...
Oula.
Dans le cas des systèmes d'échange locaux, il y a effectivement des gens qui obtiennent des services qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement en dehors de ces échanges. Mais effectivement, le système d'échanges locaux, c'est quelque chose de très solidaire, dans le sens où effectivement, les gens échangent une heure de travail contre une autre heure de travail. Il n'y a pas d'idée de profit dans ce système de solidaire. Hein. Mais ça permet effectivement à des gens de bénéficier de services qu'ils ne pourraient pas se payer autrement. Alors, sur l'économie collaborative, il peut y avoir un peu de ça, effectivement. Mais dans des pratiques, je dirais, plus informelles. Hein. Dans les pratiques, effectivement, très officielles, comme celles de BlaBlaCar ou de Airbnb, c'est pas effectivement... Alors, les gens recherchent finalement des solutions à des prix moins élevés. Mais on est quand même vraiment dans l'économie marchande.
Oui.
Mais sauf que ces structures-là permettent de se déplacer, par exemple... BlaBlaCar permet de se déplacer à des prix moins coûteux que si vous prenez peut-être un ticket SNCF ou votre propre voiture. Donc c'est en fait, il y a quand même, dans cette économie collaborative, il y a quand même beaucoup d'économies marchandes. Hein. Et le profit n'est pas absent, évidemment. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment la grande différence entre ces pratiques-là et puis certaines pratiques d'économie solidaire qui sont basées sur de vraies valeurs.
D'accord. Marion, tu avais une question ?
Alors Romain, du coup, tu es membre du Fun Lab de Tours. Donc, qui est un laboratoire d'expérimentation où les gens se rencontrent pour fabriquer eux-mêmes. Toi, du coup, en quoi ton laboratoire s'inscrit dans l'économie collaborative ?
Alors, pour répondre à la question, je vais peut-être juste refaire un point sur ce que c'est qu'un Fab Lab, très rapide, parce
Bien
que
sûr.
C'est dur sinon de répondre à cette question-là. Donc, un Fab Lab, c'est un espace ouvert de fabrication numérique. Donc, ça veut dire qu'on a des outils de fabrication numérique, bah, comme tu en as parlé tout à l'heure, des découpes laser, des imprimantes 3D, où en fait, on va partir de modèles numériques, de fichiers numériques qu'on va pouvoir reproduire à l'aide de machines qui vont le faire, entre guillemets, à notre place, mais finalement pas vraiment. Et donc, on a un espace où on va mutualiser deux choses. On va mutualiser des machines qui ne sont pas forcément accessibles à titre individuel ou qui sont complexes à utiliser tout seul sans communauté pour nous y aider. Et puis, du coup, on va mutualiser des connaissances. Donc, c'est vraiment un lieu où on va pouvoir développer tout type de projet parce qu'on va avoir d'un côté le côté technique, les machines et l'espace pour travailler sur son projet, mais aussi et surtout un soutien d'une communauté qui va partager ses connaissances. Donc ça, c'est vraiment l'essence d'un Fab Lab et c'est un endroit où on va faire par soi-même. C'est pas ce qu'on pourrait appeler comme certains Fab Labs de type entreprise ou qu'on appelle plutôt Tech Shop du coup et pas Fab Lab, où on vient, on amène son fichier, on va nous l'imprimer pour un prix donné. Là, on est vraiment dans une démarche plutôt d'éducation populaire ou en tout cas d'accompagnement à l'utilisation du lieu et où du coup, on va mettre en lien des gens qui ont des envies, des besoins avec des gens qui ont les connaissances et un espace qui dispose des machines et du matériel nécessaire pour répondre à ce besoin-là. Donc, sur ce point de vue-là, on se situe quand même dans l'économie collaborative parce que c'est un espace où vont se rencontrer et des gens qui produisent et des gens qui ont la connaissance nécessaire. Et voilà, on va faire se rencontrer un peu une offre, entre guillemets, une demande. Et surtout, il y a une communauté de membres. Donc, c'est là où, pour moi, ça va dans le sens de l'économie collaborative telle que je l'idéalise. C'est que c'est une communauté de membres qui vraiment peut rentrer dans la gouvernance du lieu, peut décider des règles de fonctionnement du lieu, etc.
Alors, c'est vrai que toutes les deux, on a défini ce qu'on avait trouvé sur Internet, en fait, ou dans des interviews, ce que c'était l'économie collaborative. Mais pour toi, qui fais partie d'une structure qui fonctionne sur le principe de l'économie collaborative, Romain, pour toi, c'est quoi, en fait ? Comment tu la définirais ?
L'économie collaborative vers laquelle on veut aller, si je reprends l'exemple de la crise, oui. Pour moi, je ne parle pas forcément au nom du Fun Lab parce qu'on n'a pas de décision politique.
D'accord,
dessus,
mais il n'y a pas de souci.
Mon nom, c'est que la crise, pour moi, elle est plutôt structurelle, quoi.
D'accord.
Donc finalement, c'est pas, l'économie collaborative n'y apportera pas une réponse en tant que telle. Par contre, il y a un type d'économie collaborative vers laquelle on a envie d'aller. C'est l'économie collaborative qu'on pourrait dire des communs, des biens communs. Donc ça veut dire que c'est une économie collaborative où on se dit qu'on a des ressources, qu'on a envie de partager, de gérer collectivement. Et il y a une communauté d'usagers, d'utilisateurs, de coopérateurs qui va gérer collectivement cette ressource en définissant des règles de manière collective pour la gérer. Donc si je prends un exemple, c'est que tout ça, ça va permettre finalement de créer de l'innovation sociale et surtout d'assurer une gouvernance collective qui permet à chacun de récupérer du pouvoir d'agir sur la ressource concernée.
D'accord.
Donc ça, on pourrait se dire, je disais tout à l'heure, repenser le contrat social, réfléchir à l'emploi, etc., mais à des degrés plus simples à comprendre, on pourrait se dire, par exemple, l'ouverture des données. Là, on a des grosses structures d'économie collaborative qui s'accaparent nos informations, des données, en fait, concernant nos voyages, par exemple, dans le cadre de BlaBlaCar, l'offre et la demande en termes de voyages. Mais pourquoi ces données, elles sont accaparées par ces structures? Et finalement, on ne peut plus distinguer le service qu'elles nous rendent et qu'on va payer via une commission des données qu'elles s'accaparent et sur lesquelles elles vont aussi faire de l'argent.
Oui, il n'y a pas un échange équivalent entre le demandeur et celui qui donne.
C'est exactement ça. Et c'est l'économie collaborative vers laquelle on aimerait aller. Ce serait plutôt celle des communs, où on se dit que ces données-là, finalement, elles appartiennent à tout le monde. Je les donne, mais qu'elles servent à tout le monde. Et où, du coup, derrière, de multiples structures pourraient rendre ce service-là, de mettre en lien l'offre et la demande, et de rendre compréhensibles ces données-là, qui sont les données relatives au voyage des uns et des autres, et des envies de voyage, et des propositions de voyage. Et où là, on pourrait avoir des services plus distribués sur les territoires, moins centralisés au niveau national, qui correspondraient chacun à un type de communauté, et chaque communauté pourrait gérer elle-même ce service, et au moins aurait la visibilité sur le service qu'elle paye finalement. Finalement, on paierait le service et pas l'accès à des données qui finalement ont été accaparées.
D'accord. Donc,
L'exemple d'un Fab Lab, par exemple, là, très concrètement, on a un Fab Lab qui est un laboratoire local sur lequel l'offre et la demande, elles se rencontrent au sein d'un tiers-lieu localement. Mais on est aussi en lien de manière nationale, internationale, avec une communauté plus large de Fab Lab. Donc ça ne veut pas dire qu'on est isolé, le côté distribué, ça veut juste dire qu'on est au sein d'une communauté identifiée qui peut s'approprier à une structure parce que c'est ancré territorialement, mais quand même en lien avec d'autres.
D'accord.
Et donc l'aspect de la donnée qu'on appelle sur des grosses structures, nous c'est ce qu'on appelle la connaissance, et ça va être par exemple tous les projets qu'on va accompagner, on va vraiment militer à accompagner les gens pour les documenter, pour raconter ce qu'ils font, partager leurs plans sous des licences libres. Il y a le mot libre qui est sorti tout à l'heure, des licences comme les Creative Commons, où là, en fait, ça va permettre à tout le monde, un projet qu'on va partager dans ces licences-là, ou un plan, quoi, ou un code source logiciel, ou peu importe quel support, quel contenu, on va dire tout le monde peut l'utiliser pour tout usage, le modifier, et à deux conditions, citer sa source et le partager dans les mêmes conditions.
D'accord.
Et ça stimule l'innovation. Ça veut dire que tout le monde peut le récupérer, le réutiliser à l'identique ou l'améliorer, le modifier et le reverser dans les mêmes conditions et donc permettre son usage par tous. Et donc ça veut dire que vraiment on est dans un partage de connaissances et dans une augmentation, une amélioration continue de la connaissance à l'image de Wikipédia ou de projets comme ça, quoi.
Ok, donc ouais, quand on entend en fait ta définition de cette économie-là, on a l'impression qu'il y a aussi une grosse notion de partage de l'information qui fait partie de ce mouvement, quoi.
Ouais, je pense qu'elle est essentielle et elle est au cœur et de l'économie collaborative qu'on pourrait souhaiter et des Fab Labs, parce que c'est ça qui permet l'innovation, c'est ça qui permet à la communauté de se fédérer, c'est ça qui crée les liens entre les gens. C'est ce rapport à la connaissance et ce partage de connaissances. Et c'est ça qui crée l'effet tiers-lieu, en fait. C'est aussi un effet humain. C'est de dire que nous, on va accueillir des entrepreneurs, des artistes, des étudiants, des jeunes décrocheurs qui vont venir bidouiller des trucs. Et tous vont se retrouver à un moment donné parce qu'ils auront besoin d'infos, de connaissances, de compétences que chacun ne peut pas maîtriser en totalité individuellement. Et il y aura du partage et ça va créer vraiment du décloisonnement. On va casser des silos entre les mondes et permettre aux gens de se rencontrer par le biais de ce partage de connaissances.
D'accord, ok. Très prometteur et très intéressant, en tout cas, comme explication. Merci beaucoup. Je voulais revenir à vous, Alain Clément. Donc, vous nous avez défini ce que c'était l'économie sociale. Maintenant, j'aurais voulu savoir, en fait, quels sont pour vous, aujourd'hui, les enjeux d'une telle économie.
L'économie sociale et solidaire, dans son, le sens le plus large. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, dans son, le sens le plus large, effectivement. Oui. Hein, c'est-à-dire avec une économie très officielle et puis des pratiques plus informelles, ça représente à peu près entre 10% du produit, 10% du produit intérieur, c'est-à-dire à peu près 10% de la richesse nationale. Et ça représente un gisement d'emploi relativement important aussi. Donc c'est effectivement, ce n'est pas une alternative actuellement au système capitaliste classique, c'est une réponse complémentaire, je dirais, à des pratiques, je dirais, plus officielles.
D'accord.
Alors, à l'avenir, il est probable que ce système d'économie sociale et solidaire continue à se développer. Par exemple, en France, nous avons actuellement à peu près 800 000 associations. Il se crée à peu près 70 000 à 80 000 associations par an. Donc, il y a effectivement, alors, beaucoup de ces associations, bien sûr, ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Il y a très peu d'associations qui embauchent, mais ça montre qu'il y a quand même un certain dynamisme important. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant l'ancrage dans le territoire. Effectivement, si l'économie collaborative telle qu'elle a été définie tout à l'heure montre effectivement une forme de partage et un ancrage dans le territoire, je crois que c'est aussi la caractéristique de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, je crois qu'on parle un petit peu des mêmes choses.
Mmh.
Et dans les territoires, en particulier les territoires qui ne sont pas les territoires urbains ou tout du moins les grandes métropoles, il y a souvent, grâce à l'économie sociale et solidaire, et je pense aussi grâce à l'économie collaborative, des tentatives d'organisation, de création de services qui sont extrêmement importants pour les populations locales. Ce qui n'exclut pas, effectivement, comme vous le disiez, que ces structures locales sont fédérées, confédérées avec des structures nationales, voire internationales. Et effectivement, on a, par exemple, je prends le cas des systèmes d'échange locaux. La fois dernière, j'assistais à une conférence sur justement ces systèmes d'échange locaux. Il y avait des personnes qui disaient qu'il y avait des pratiques intercelles maintenant. Il y avait par exemple la route des selles, c'est-à-dire il y a des gens qui voyagent de façon solidaire, c'est-à-dire qu'ils vont chez des personnes qui sont membres du sel et ils accueillent à leur tour effectivement aussi ces membres du sel. Donc vous
D'accord.
avez des pratiques extrêmement stimulantes et je pense que globalement, même si ce n'est pas évidemment une économie qui remplacera les pratiques capitalistes d'aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui n'est pas négligé. Et je ne parle pas évidemment de tout ce qui est aide à la personne, par exemple,
oui.
qui est un gisement d'emploi considérable et qui là aussi fonctionne à travers d'un système associatif. En partie, pas en totalité, bien sûr.
Alors, il nous reste beaucoup encore de choses à dire, mais on va faire une petite pause musicale pour laisser reposer tout ça. Donc, on va écouter tout de suite un titre du duo de guitaristes Rodrigo et Gabriela qui nous ont fait le plaisir d'être au Festival Terre du Son de l'année dernière, avec sans malheureusement Gabriela qui n'a pas pu être présente sur scène. Donc, tout de suite, on écoute The Soundmaker sur Radio Campus. Et c'était The Soundmaker de Rodrigo et Gabriella. Et nous retrouvons tout de suite, encore une fois, nos invités Romain, membre du Fab Lab, et Monsieur Alain Clément, prof d'économie et de droit à l'Université François Rabelais. Et Marion, je crois que tu voulais poser une question.
Oui, alors je me demandais en fait, donc tout à l'heure, vous parliez Je suis un peu perdue en fait. Tout à l'heure, Alain Clément, vous parliez, vous disiez que l'économie sociale et solidaire ou l'économie collaborative n'était pas seulement une alternative au système capitalisme. Mais du coup, comment vous pensez la place de l'argent dans l'économie collaborative ou l'économie sociale et solidaire ?
Alors, dans l'économie sociale et solidaire, je dirais que dans la plupart des situations, l'argent joue un rôle à peu près équivalent à ce qu'il joue dans des structures privées. Alors, sauf dans les associations. Alors, il faut faire peut-être la différence entre les coopératives, les mutuelles et les associations. Effectivement, dans les coopératives et les mutuelles, bon, je dirais que l'argent joue un rôle. Est utilisé de la même manière, il n'y a pas de différence majeure. Dans les structures associatives, effectivement, c'est très différent. D'abord, dans beaucoup de structures associatives, il n'y a pas vraiment d'argent. L'argent ne circule pas, ce sont des associations, je dirais, de services. Et puis même, dans certains... Alors, si nous prenons par exemple le cas des systèmes d'échange locaux, il n'y a pas l'argent, je dirais, classique, mais il y a une forme d'argent. Puisque dans les systèmes d'échange locaux, on crée une monnaie qu'on appelle turone, qu'on appelle peu importe. Hein, et cette monnaie, donc, elle est utilisée uniquement par les membres adhérents à la structure. Donc c'est une forme d'échange, enfin ça permet, je dirais, d'évaluer un petit peu les échanges, mais elle n'a pas donc le même rôle à ce moment-là que dans le cas de, je dirais, le système classique.
Juste,
Romain.
Ouais, désolé, il y a
juste, pas de souci.
Pour une info, il y a un projet de monnaie locale en Touraine qui s'appelle La Gabarre.
Oui,
voilà, tout à pour fait. Ceux que ça intéresse, il y a une page Facebook.
Absolument, c'est tout à fait vrai, oui.
Pour aussi la mettre sur la page, remarque. Ah oui, j'avais aussi une question, parce qu'on entend beaucoup parler des plateformes qui se développent. Quelles seraient, en fait, et là je pose la question à vous deux, à Romain et à Monsieur Clément, quel est l'impact sur l'emploi de ces économies-là, solidaires et collaboratives, à ce moment-là ? Comment vous pourriez définir l'impact que ça a sur l'emploi ? Est-ce que ça change la manière de travailler ou pas ? Pas tous en même temps.
Bon, je dirais que dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il y a un petit peu de tout. Disons que dans les structures, je dirais, les plus officielles, l'emploi, il n'y a pas de changement fondamental. Quand vous travaillez dans une banque mutualiste ou coopérative, les employés n'ont pas de fonction ou de comportement qui serait particulièrement différent. Si ce n'est que dans un certain nombre de structures, les salariés, je dirais, en fait, les salariés ne partagent pas forcément les valeurs de la structure dans laquelle ils sont. En fait, disons, ils y adhèrent probablement, mais ils ne sont pas, je dirais, ce ne sont pas des militants. Hein. Et donc, dans ces structures, effectivement, il y a souvent donc deux types de personnes. Il y a et les salariés d'un côté. Et puis, il y a les membres actifs, les associés de l'autre, hein, dans le cas où, effectivement, ce sont des structures dans lesquelles il y a de l'emploi. Et pour les militants, pour les membres qui sont à l'origine de l'association, il y a effectivement un partage de valeurs, il y a un esprit militant qui est très important et qui n'est pas forcément partagé par les salariés, parce que les salariés sont là pour réaliser un certain nombre de tâches. Hein. Bon, certes, ils adhèrent probablement à ces projets associatifs, mais ils n'en sont pas les porteurs. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'évolution de ces structures, a tendance souvent, lorsqu'elles grandissent, à donner priorité, je dirais, un petit peu à la technocratie, c'est-à-dire à la gestion de l'emploi, un petit peu à la manière d'une entreprise, et la dimension militante a plutôt tendance à disparaître. On le voit par exemple dans le cas des ONG. Vous avez beaucoup d'ONG où actuellement on fait appel à des professionnels, à des experts, beaucoup plus qu'à des militants de la première heure. Et donc, il y a une sorte de, je dirais, de, d'opposition à l'intérieur de ces structures entre, je dirais, les associés et les salariés. Donc ça, c'est un phénomène assez fréquent et qui est très observé dans, quand ces structures évoluent de façon assez importante.
Mmh. Okay. Complètement. Moi, je veux bien compléter, bah, peut-être par mon expérience perso. Je suis aussi dans une coopérative d'activité d'emploi. Donc, c'est une entreprise, en fait, sous forme coopérative, qui permet à des entrepreneurs, plutôt que de devenir entrepreneur tout seul, de rentrer au sein d'une structure collective, au sein duquel on va mutualiser de la compta, de l'administratif, et puis surtout, on va développer nos activités en parallèle à plusieurs, et ça va faciliter le fait de répondre à un contrat, à un appel d'offres, à plusieurs, avec des compétences variées. Et donc ça évite ce côté hiérarchique, donc on est sur quelque chose de plus horizontal, d'une vraie structure partagée. D'accord. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le Fab Lab aussi, où en fait une communauté d'usagers va pouvoir s'approprier le lieu vraiment, et du coup le Fab Lab ça va vraiment devenir ce qu'on appelle un bien commun, un endroit, un espace, une communauté qui va s'approprier la ressource qu'est le lab et définir la manière dont ils vont l'utiliser, dont ils vont en avoir usage. Et c'est un peu le travers dans lequel tombent et l'économie collaborative et l'ESS quand ils ont tendance à grossir. C'est que par souci de facilité, on va centraliser, on va faire une méga structure nationale ou internationale qui va tout gérer, et parce que c'est plus facile. Mais du coup, quand c'est centralisé et que c'est gros, c'est moins facile de faire vivre la démocratie et la participation et le pouvoir d'agir de chacun. Et donc, je pense que le gros enjeu, il est là, en fait. Il est comment, dans l'ensemble des structures, qu'elles soient d'économie solidaire, d'économie collaborative, bah, du coup, sur les territoires, on met les gens en capacité de travailler à plusieurs. Donc, c'est plus facile à petite échelle. Et quand ils sont en capacité de travailler à plusieurs, et bah, déjà localement, et bah, ils sont plus en capacité de se mettre en réseau à échelle plus grande et du coup de participer à ce changement d'échelle qu'on prône souvent dans l'ESS et dans d'autres domaines et qu'on voit comme faire grossir les structures. Moi, je le vois plutôt comme mailler les territoires pour qu'ils soient connectés entre eux et que ça provoque un grossissement et des vrais changements globaux, quoi.
D'accord. Marion, une question ?
Puisqu'on revient sur l'association FunLab, est-ce que Romain, tu peux expliquer comment on adhère à l'association et expliquer un peu le fonctionnement concret en fait, de l'association ?
Ouais, complètement. Je voulais juste dire un point que j'avais oublié dans la présentation tout à l'heure, c'est que le Fab Lab, il y a un autre enjeu, un autre objectif, c'est qu'on se considère un peu comme une bibliothèque de la culture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, il est partout autour de nous, que ça devient un nouveau savoir de base, parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas comprendre la société dans laquelle on est, et que du coup, bah, pour exercer son pouvoir d'agir et son pouvoir démocratique, bah, faut comprendre le numérique un minimum ou ses enjeux, donc c'est aussi un lieu pour ça.
Alors, et donc, comment on y rentre ? Ça correspond à ce que j'ai vu sur le site, sur l'onglet Wikilab. Est-ce que c'est ça ? Où il y a plein d'informations.
Voilà, bah sur le wiki, ouais, on peut retrouver plein d'exemples de projets.
D'accord.
Et donc on vient au Fab Lab finalement un peu pour ça, parce qu'on est intéressé par le numérique, qu'on a un projet précis en tête ou juste des envies de découvrir les machines. Et finalement, on va soit trouver du monde pour nous accompagner sur son projet, soit découvrir des choses qu'on aura envie de faire. Donc on peut arriver avec une envie ou pas et développer différents projets. Alors je peux sûrement donner quelques exemples. On avait créé un jeu vidéo avec des enfants sur un quartier, des centres sociaux, etc. On avait recréé le plan du quartier sur OpenStreetMap, qui est une carte mondiale libre contributive. Après on avait monté les immeubles en 3D, on avait collé les photos sur les façades et finalement... Avec Super Tuxcart, qui est un jeu vidéo libre, et ben on avait joué aux jeux vidéo dans le quartier.
D'accord.
Il y a aussi des entrepreneurs qui viennent, là, qui montent des skateboards en pièces uniques. Ouais. Ben, ils viennent, ils utilisent la découpe laser pour faire des modèles de pièces uniques de skateboard. Il y a Didier, là, qui est le président actuel du FunLab, qui a profité que la statue du Saint-Martin soit au sol pour proposer à la mairie d'aller la modéliser. Et du coup, maintenant, il y a des reproductions en 3D du Saint-Martin. Il y a des familles, des mères de famille avec leurs enfants qui viennent faire du loisir créatif, soit avec la brodeuse numérique, soit avec une découpe fil chaud qui va découper du polystyrène. On refait des pièces de jeu pour des centres sociaux qui ont des jeux inutilisables. Donc c'est vraiment un endroit qu'on peut s'approprier. Il y a des horaires d'ouverture. Donc il faut venir.
17h22, c'est ça ?
Comment ?
17h22 ?
Certains jours, ouais. En fait, c'est du mercredi au samedi, plutôt l'après-midi. D'accord. Ou la soirée. Donc il faut aller voir sur le site funlab.fr et puis on retrouve toutes les horaires d'ouverture. Et donc on passe, on voit, on discute, on découvre, on teste une machine et puis si ça nous plaît, qu'on a envie, le principe c'est qu'on adhère pour des questions d'assurance et puis de soutien au Fab Lab. Et derrière on utilise des machines à des prix vraiment réduits qui correspondent à la consommation de matériaux et au rachat des machines une fois qu'elles ont été trop utilisées, quoi.
D'accord.
Donc pour en revenir à la question de Marion, comment est-ce qu'on adhère du coup? Enfin, il y a des
Oui, il y a un bulletin d'adhésion, c'est une association, donc tout simplement quoi, on passe, si on a envie de participer à l'aventure, on adhère.
D'accord.
C'est 10 euros pour les étudiants ou quand on a peu de revenus et 20 euros l'adhésion normale. Après, on peut adhérer en tant que structure. Si on est une association, qu'on va en avoir besoin régulièrement ou une entreprise, ben on peut adhérer. Là, c'est un peu plus cher. Je ne vais pas dire de prix pour ne pas me tromper, mais ça doit être, je vais dire 50 euros, mais je ne suis pas sûr.
D'accord, ok. Bon, ben on vérifiera peut-être que c'est ça. Puisque c'est un très très beau projet, d'où est né justement ce projet, cette aventure de partager comme ça des biens numériques et de créer un projet autour, autour d'une communauté?
Alors, j'étais pas là au tout début, mais je crois qu'au début, c'est des gens, il y a le concept des Fab Labs en 2013 qui commençait à beaucoup s'essaimer en France. Mm-hmm. Donc, il y a une communauté de personnes qui se sont retrouvées avec cette envie-là de partager leur passion pour l'Arduino, l'électronique, les imprimantes 3D. Donc, des gens à Tours qui commençaient à acheter des imprimantes 3D qui étaient un peu précurseurs à l'époque. Et donc, on se retrouvait au Sanitas, c'était tous les lundis soirs à l'époque, il y a eu l'association de créer. Et tous les lundis soirs, on se retrouvait à la cantine numérique de Tours où on prenait un repas. Et puis derrière, chacun sortait ses machines, on apprenait tous ensemble. Et après, il y a les compagnons du devoir qui nous ont prêté un local, donc on a eu un local. Donc ça s'est un peu fait de fil en aiguille comme ça, en fonction de là où allait la communauté des gens, quoi. On a au fur et à mesure bidouillé comme ça. Et puis on a eu un soutien de l'agglomération pour investir du matériel en même temps qu'on est arrivé chez les compagnons. Et là, on est en discussion pour peut-être aller à MAM, mais ce qui n'a rien de certain pour le moment, on attend de voir. Parce que justement, comme on est sous forme associative et qu'on n'a pas de vocation commerciale pure, du coup, notre modèle économique est quand même assez réduit. Donc voilà, donc on va attendre de voir ce qu'on sera en capacité de faire en termes de locaux. Pour l'instant, c'est notre gros enjeu.
Eh bien, merci à vous, à Alain Clément, professeur d'économie et de droit à l'université François Rabelais. C'est très long comme titre. Et à Romain Meubre de FunLab.
Professeur d'économie seulement.
Professeur d'économie seulement, pardon, désolé.
Je ne suis pas juriste. Et je voulais juste d'une petite minute pour conclure également. Si certains auditeurs, auditrices et auditeurs sont intéressés par cette thématique de l'économie sociale et solidaire et d'économie coopérative, l'économie collaborative, pardon. On peut leur signaler quelques ouvrages éventuellement, ou quelques revues. Il y a une revue qui est très ancienne d'ailleurs, qui s'appelle la Revue internationale de l'économie sociale, qui s'appelait auparavant Revue des études coopératives, mutualistes et associatives. Elle date des années 1920, et puis elle avait été créée par Charles Gide, qui était un des grands fondateurs du mouvement coopératif de consommation. Cette revue se paraît tous les 3 mois, et effectivement, elle fait part de nombreuses expériences dans le domaine de la coopérative, de l'association et de la mutuelle. Vous avez également la revue mensuelle Alternative économique, que je pense beaucoup d'auditrices et d'auditeurs doivent connaître, qui effectivement parle aussi de ces questions d'économie sociale et solidaire. Et puis évidemment, vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont parus sur ces thématiques-là. Bon, là, effectivement, je ne ferai pas de liste, mais on peut effectivement en trouver également encore disponible, évidemment, dans les dernières années. Il y a eu pas mal de publications qui ont été faites.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon, alors, on n'a pas le temps pour une dernière musique. Donc, c'est la fin des Glaneuses pour cette émission. Merci encore à nos deux invités, Alain Clément et Romain, d'avoir été présents avec nous ce soir. Et merci à notre chroniqueuse Marion.
Mais de rien.
Toujours présente. Et on embrasse très fort encore une fois Juliette, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir.
Mais qui sera sûrement là la prochaine fois.
On espère en tout cas. En tout cas, nous espérons aussi tous que vous avez passé un bon moment à l'écoute de Radio Campus et des Glaneuses. On se retrouve dans 2 semaines au même jour et à la même heure pour parler cette fois-ci de la fameuse réforme de l'orthographe, normalement. Oui, Marion ? Et nous allons passer au crible. Donc bonne soirée à tous et à toutes sur les ondes de Radio Campus.
Et donc si vous voulez retrouver le podcast de l'émission, vous pourrez le retrouver du coup sur la page Facebook des Glaneuses. Il sera disponible, voilà.
Et sur le site Radio Campus, bien sûr. Donc 99.5 FM, c'était les Glaneuses. Bonne soirée à tous et à toutes.